sur la ruine de Jérusalem, Jésus qui annonce la ruine de Jérusalem, et les disciples avaient lié aussi cette question à la question de la fin du monde, puisque pour les Juifs, eh bien, la ruine de Jérusalem allait de pair avec la fin des temps, et donc Jésus répond à cette double question en parlant, peut-être un peu mêlé, à la fois de la ruine de Jérusalem, et notamment de la ruine du temple, et de la fin des temps. Alors, sauf s'il y a des questions sur ce chapitre 13, nous allons continuer dans une ambiance un peu différente, puisque là nous quittons les abords immédiats de Jérusalem, puisque ce discours Jésus l'a prononcé sur le mont des Oliviers, et face au temple, en regardant le temple, et là nous retournons à Béthanie, qui est le petit village où habitent notamment Marie, Marc et Lazare, et qui est le lieu de refuge du Christ pendant la Semaine Sainte, un lieu de paix, un lieu d'amitié, un lieu où il peut finalement reprendre son souffle, en quelque sorte, après les confrontations assez dures, assez pénibles avec les pharisiens, avec les scribes, avec les sadducéens à Jérusalem même. Est-ce que vous aviez des questions sur le chapitre 13? Alors nous lisons le chapitre 14, du moins le début. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple ». Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Première question, peut-être, est-ce que cette scène de ce qu'on appelle donc l'onction à Béthanie vous rappelle une autre scène de l'évangile? Exactement. Donc voilà, ça rappelle la pécheresse pardonnée, cette grande pécheresse de la ville, on ne sait pas exactement de quelle ville il s'agit, et qui effectivement, alors que Jésus est à table, comme ici, dans la maison de Simon le pharisien, c'est Simon le lépreux, mais le chef de maison s'appelle aussi Simon, et donc une pécheresse de la ville vient et se met à pleurer aux pieds de Jésus et essuie ses pieds avec ses cheveux et ensuite fait une onction avec du parfum. C'est la scène qui est représentée à la Madeleine sur le tableau de gauche, puisque traditionnellement, la pécheresse est identifiée donc à Sainte-Marie-Madeleine, donc dans l'église, consacré, dédié à Sainte Marie-Madeleine, il y a ce tableau qui représente cette scène. Et il est très vraisemblable, pas une affirmation inconditionnelle, mais il est très vraisemblable que ce soit la même femme. C'est intéressant de noter que cette onction de Béthanie, que l'on vient de lire, elle est rapportée dans Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Jean. Alors que l'autre onction de la pécheresse pardonnée n'est rapportée que par Saint Luc, comme s'il y avait une forme de complément finalement entre les quatre évangiles. Et ce qui est intéressant aussi de noter dans l'évangile de Saint Jean, c'est que quand Saint Jean parle de Marie, sœur de Marc, il dit « C'est elle qui oignit le Seigneur avec du parfum et puis lui essuya les pieds avec ses cheveux. » S'il s'agissait de deux femmes différentes, ce serait étrange que Saint Jean en fasse un signe distinctif, parce qu'on pourrait se dire « Oui, mais de quelle onction parle Saint Jean ? Est-ce que c'est celle de Simon le pharisien ou est-ce que c'est celle chez Simon le lépreux ?» Donc si Saint Jean, qui a vécu avec le Christ, et donc qui a vécu ces deux onctions successives dans son évangile, parle de Marie comme celle qui a oint le Seigneur avec du parfum et a essuyé ses pieds avec ses cheveux, ben, c'est sans doute que c'est la même femme, c'est Marie, sœur de Marc, qui a renouvelé finalement son geste. Une première fois au moment de sa conversion, au moment où elle arrive, pour pleurer ses péchés, et puis une deuxième fois, finalement, lorsque, eh bien, peut-être, cette ressemblance, finalement, le fait qu'on soit de nouveau dans un repas, qu'on soit de nouveau chez un Simon, le fait que l'ambiance soit très pesante, et que, voilà, sans doute que Marie sent cette hostilité qui monte, elle sent que le Christ, eh bien, va avoir des heures très difficiles à vivre, eh bien, elle renouvelle, d'une certaine manière, cette onction pour renouveler son amour finalement pour son Seigneur, pour redire de nouveau eh bien, que, voilà, qu'elle est pleine d'amour pour le Christ. Alors cette fois-ci, elle ne pleure pas, parce que le temps de la conversion est passé, le temps de pleurer ses péchés, elle est vraiment devenue disciple, mais il y a cette onction de parfum. Saint Marc parle de l'onction uniquement sur la tête, mais Saint Jean, qui est plus précis, parle aussi d'une onction sur les pieds, de répandre le parfum sur les pieds, ce qui rappelle justement les larmes versées sur les pieds la première fois, et maintenant, eh bien, c'est le parfum qui est versé sur les pieds. Donc, voilà, c'est toujours un peu débattu, cette identification, mais ça paraît quand même assez vraisemblable que ce soit la même femme, et donc que la pécheresse, que Saint Luc ne nomme pas par discrétion, parle d'une grande pécheresse, eh bien, Saint Jean, lui, la nomme dans ce passage qui est beaucoup plus à son honneur, parce que là, le Christ loue son geste, complimente son geste, ici, à Béthanie, en disant, bah, c'est une belle œuvre, c'est un noble geste qu'elle a fait pour moi. Et donc, Saint Jean, eh bien, voilà, lève l'anonymat, comme ça lui arrive d'ailleurs à plusieurs reprises, ou à différents passages, les évangélistes laissent le nom dans l'ombre, et Saint Jean, lui, nomme. Oui, Saint Jean, puis là, en l'occurrence, Saint Marc aussi. Non, Saint Marc, non, je ne dis pas. Donc, nous sommes à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et là encore, donc, chez Saint Jean, nous est précisé que Lazare était à table, avec le Christ et les douze, que Marthe servait, et donc que Marie arrive avec le parfum pour faire cette onction. Ça va ? Deuxième question, dans quel contexte sommes-nous et près de quelle fête sommes-nous d'après ce que nous dit Saint Marc ? Voilà, très bien. Donc, il cite deux fêtes en une, la fête de la Pâque et des pains sans levain, qui n'est, dans le calendrier liturgique juif, pas tout à fait la même fête. C'est-à-dire, la Pâque, c'est le 14 Nissan, donc le 14 du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année dans le calendrier liturgique des Juifs, et la la fête des azimes, donc des pains sans levain, elle, elle se prolonge pendant une semaine du 15 au 21. Donc ce sont deux fêtes qui sont très proches, mais qui ne sont pas exactement, qui ne concordent pas exactement au calendrier, la fête des azimes étant plus longue. À quoi font référence ces deux fêtes? Au même événement, qui est la libération des Juifs d'Égypte. La fête des pains sans levain, on est en fait au début de la moisson de l'orge, donc souvent les fêtes juives ont aussi une connotation agricole, donc on offre les prémices de l'orge, on offre les premières céréales, mais au-delà de cette dimension de fête agricole, fête commune à d'autres peuples, il y a quelque chose qui est spécifique au peuple hébreu. C'est qu'on mange des pains sans levain pour se souvenir que la nuit où les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis en hâte, ils sont sortis rapidement, et donc sans attendre que le pain lève. Et donc ils ont mangé ces pains qui n'avaient pas levé avec les herbes amères et ils sont partis. Donc les pains sans levain, ça a à la fois une dimension agricole, les fêtes qui commencent la moisson, et puis, ça a une dimension, parce qu'on ne prend pas le levain de l'ancienne récolte, donc on mange des galettes non levées. Et puis, c'est une dimension vraiment plus spécifiquement religieuse, pas seulement ancrée dans la nature, mais ancrée dans l'histoire d'Israël. C'est le rappel de ces pains qui n'avaient pas eu le temps de lever, et que les Juifs, donc conduits par Moïse, ont mangé en hâte la nuit où ils ont quitté l'Égypte et l'esclavage pour se mettre en route vers la terre. Et la Pâque, donc c'est référence à cette même nuit, puisque Pâque, ça vient de Pécha, donc Pécha en hébreu, qui veut dire le passage. Alors souvent, on pense que c'est le passage de la mer Rouge, parce qu'effectivement, dans la suite de cette nuit où les Hébreux ont quitté l'Égypte, eh bien, assez rapidement, ils se sont dirigés vers la mer Rouge, ils ont passé à pied sec, donc c'est un miracle, évidemment, Dieu qui fait que la mer s'ouvre devant eux et se referme ensuite sur l'armée d'Égypte qui les suit. Donc, je ne sais pas sur est-ce que c'est un tremblement de terre ou pas, mais c'est pas la question du soir. Mais en tout cas, voilà, souvent on pense que Pécha, qui a donné ensuite Pascha et Pâques en français, souvent on pense que c'est le passage de la mer Rouge. Mais en fait, c'est pas ça, c'est le passage de l'ange. Voilà. Qui passe les maisons des Hébreux. Puisqu'en fait, enfin, le verbe, c'est passer au-dessus, passer au-delà. Parce que je vous rappelle donc, le contexte. Moïse a été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple, pour aller voir Pharaon et dire au Pharaon d'Égypte eh bien, qu'il faut laisser partir mon peuple. Et le Pharaon tergiverse, commence à dire oui, puis finalement dit non, et donc des plaies sont envoyées sur la terre d'Égypte, sur les habitants du pays d'Égypte, pour convaincre Pharaon de laisser partir le peuple. Le Pharaon ne veut toujours pas, malgré les 9 premières plaies, donc il y a la 10e plaie qui est la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, qui va intervenir, mais pour que les Hébreux soient épargnés, il leur est demandé donc, d'offrir un agneau sans tache, dont on ne brisera pas les os, un bel agneau dont on prendra le sang et on le mettra sur les linteaux des portes pour montrer que ici habitent les Hébreux et ainsi l'exterminateur qui doit prendre la vie des premiers-nés passera ses maisons, il épargnera ses maisons, il passera outre ses maisons, il ne s'y arrêtera pas et ainsi les Hébreux seront épargnés. Et donc, la pécha, le passage, eh bien, c'est les Juifs qui, tous les ans, font mémoire de cette intervention de Dieu qui, à la fois, les sauve, puisque cette 10e plaie, elle va convaincre Pharaon de les laisser partir, et donc, c'est pour eux le début de la liberté, du salut et la marche vers la terre promise. Et en même temps, eh bien, c'est le souvenir de ce rituel dans lequel, évidemment, on reconnaît une annonce de ce qui se passera avec le Christ, qui est le véritable agneau, qui est sans tache, qui est sans péché, dont aucun des os ne sera brisé. On le verra sur la croix, ses jambes ne seront pas brisées, et dont le sang eh bien, vient marquer nos cœurs symboliquement pour que justement le péché en soit effacé et que au contraire nous puissions nous mettre en route vers la terre promise du ciel. Donc cette fête de la Pâque juive, qu'on va retrouver évidemment le soir du jeudi saint, elle est extrêmement riche de sens. Donc voilà, nous sommes à deux jours de la fête de la Pâque, donc je viens de vous rappeler un peu le contenu, donc la Pâque est des pains sans levain, donc évidemment quand saint Marc, sachant ce qui s'est passé après, nous parle de la Pâque, évidemment c'est pas anodin, c'est pour, voilà, pour que les chrétiens tournent déjà leurs yeux vers la véritable Pâque, c'est-à-dire vers le passage du Christ vers son Père et le fait qu'il nous entraîne à sa suite. Donc la fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après, et puis là on voit que saint Marc va mettre une petite introduction et que la conclusion lui répondra. Je m'explique donc. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus, par ruse pour le faire mourir. Donc, dans l'introduction, nous avons les grands prêtres cherchaient. Et dans la conclusion, qu'est-ce qu'on aura ? Judas Iscariote, donc au verset 10, alla trouver les grands prêtres et Judas cherchait comment le livrer. Donc, saint Marc place cette onction de Béthanie entre une introduction et une conclusion qui se répondent pour montrer justement que c'est un point central que cette onction de Béthanie. Et qu'est-ce qui est central? Quelle est la bascule qui s'opère à Béthanie? Ben c'est que avant, les grands prêtres cherchent à faire mourir Jésus, mais ils n'ont pas de moyens, mais ils ne savent pas comment faire. Et en plus, ils ne voudraient pas le faire pendant la fête. Et puis finalement, une fois que cette onction de Béthanie est passée, eh bien, là, ils ont le moyen, ils s'en réjouissent d'ailleurs, et ils ont un moyen qui est tellement alléchant pour eux, ben qu'ils vont même accepter que ça se passe pendant la fête. Donc, vous voyez, il y a l'introduction, les grands prêtres cherchaient, à la fin, les grands prêtres, là c'est Judas qui cherche, mais au-delà des ressemblances, il y a un grand changement qui s'est opéré, c'est que avant l'onction, ils ne savent pas comment faire, après, ils savent très bien comment faire. Alors, ça montre tout le caractère essentiel de cette onction de Béthanie. Parce que c'est cette onction de Béthanie qui va faire basculer Judas et qui va l'amener justement à aller voir les grands prêtres pour leur livrer le Christ. Et pourtant, quand on l'a lu, on pourrait se dire que c'est pas forcément l'épisode. Si on avait fait un petit sondage dans l'évangile, c'est peut-être pas l'épisode qui nous paraît le plus important et le plus à même de faire basculer Judas. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que Judas, même si c'est pas explicitement dit, mais on peut peut-être essayer de découvrir, qu'est-ce qui s'est passé pour que Judas, comme ça, bascule, et puis, devant cette onction de cette femme, se dise bah, que finalement, il va aller livrer le Christ. Donc, comme on l'a dit, il y a une femme qui entre avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Pardon ? Alors, l'évangéliste, il insiste sur deux choses. D'une part, sur la valeur. Flacon déjà en lui-même est précieux, c'est un flacon d'albâtre. Et il insiste, hein, c'est un parfum très pur et de grande valeur. Et ceux qui vont rudoyer la femme diront même qu'on peut le payer, on aurait pu le vendre 300 pièces d'argent. Alors, une pièce d'argent, c'est une journée de travail. Vous vous souvenez, dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, le maître promet un denier, c'est une pièce d'argent, à celui qui aura travaillé à sa vigne toute la journée. Souvenons-nous aussi que le Christ sera livré pour 30 pièces d'argent. Donc c'est terrible, ça. C'est-à-dire que le Christ vaut 10 fois moins que ce flacon de parfum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, le français a traduit par un parfum très pur, parce qu'on ne sait pas trop comment le traduire. En fait, le mot grec, c'est pistikos, qui vient du mot pistis, qui veut dire la foi. Et on s'est un peu interrogé pourquoi c'était comme ça un parfum de foi. Et le père Lagrange, qui est un des grands exégètes du début du XXe siècle, raconte qu'à Jérusalem, dans les souks, il a trouvé un flacon de nard pisticos. Et il explique qu'en fait, ce sont des flacons qui sont fermés par le parfumeur et qu'on ne peut pas ouvrir pour justement garder au maximum les essences, etc. Et donc, on l'achète de confiance, en fait. On l'achète sur la foi qu'on a dans le parfumeur, parce que on ne peut pas ouvrir la bouteille pour respirer, pour voir s'il va nous plaire et s'il est bien à notre goût, etc. Donc, on est obligé de poser un acte de foi envers le parfumeur qui nous assure que ben, voilà, il est bien conforme à ce qu'on en attend. Et donc, il y a, voilà, derrière ce petit détail aussi, une invitation à la foi, d'une certaine manière. Et on voit bien donc que la femme brise le flacon. Le flacon est fermé, en fait, il est scellé, et donc il faut le briser pour l'ouvrir. Et donc, réaction de l'entourage, quelques-uns, donc on ne sait pas si c'est les convives, on ne sait pas si c'est... En tout cas, Saint Marc ne précise pas si c'est les douze. Saint Jean, lui, il parle davantage de Judas, qui volait dans la bourse commune. Et donc, on aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres, et il l'a rudoyé. Donc, comme c'est très bien remarqué un commentateur, spirituellement, c'est assez intéressant cette réaction, parce que, en fait, le parfum, il est déjà répandu. Et donc, le fait de rudoyer la femme, c'est le propre des gens qui ne sont pas vraiment dans la réalité, en fait. Ils sont dans l'illusion. Ah oui, mais on aurait pu faire autrement. Ben oui, mais ça n'a pas été comme ça. Et le parfum, on ne va pas le récupérer dans la tête de Jésus, ni sur ses pieds, pour remettre dans une bouteille, etc. Donc, il y a ce côté, et ça en France ça peut tous être notre cas, au lieu de nous émerveiller de ce qui se passe, même si ça nous déconcerte, ou au lieu d'essayer de comprendre pourquoi cette femme a posé un geste qui effectivement est fou d'une certaine manière, au vu du prix que coûte ce parfum, là encore Saint Jean est très précis, il parle d'une livre, donc c'est vraiment une quantité assez impressionnante. Là, tout de suite, on se rabougrit, on rudoie, on se scandalise, mais on se scandalise un peu en vain, puisque de toute façon, c'est fait. Et puis, bon, cette femme, c'est pas non plus leur petite fille, c'est pas leur enfant, ils n'ont pas une autorité sur elle pour lui dire, ben écoute, t'aurais pas dû faire ça, etc. Et donc, là, il y a une réaction qui est bonne peut-être à creuser, c'est-à-dire que parfois, quand les choses nous déconcertent, essayons de rester dans la réelle et de voir pourquoi cette chose est arrivée plutôt que de nous projeter dans un avenir qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire bah, donner 300 pièces d'argent aux pauvres, non, ça n'arrivera pas parce que le parfum il avait tendu. Et puis voilà, l'acte il est déjà fait, donc le passé est déjà passé.
Et puis on peut se dire qu'il y a peut-être une raison de faire
ça. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'eux ne cherchent pas. Ils ne cherchent même pas, ils ne disent même pas, mais pourquoi as-tu fait ça?
Oui.
Ils se contentent de la rudoyer. Voilà. Et avec un motif qui peut paraître effectivement généreux, on aurait pu le donner aux pauvres, mais qui de toute manière n'arrivera pas, parce que comme je dis, le parfum, il est déjà répandu. Alors, à ce motif généreux, effectivement, Saint Jean, lui, ajoute un autre motif, qui est de dire que c'est Judas qui grogne, parce qu'il tenait la bourse commune des apôtres et il piochait dedans. Donc il se dit, ben voilà, si on avait vendu le parfum, les 300 deniers seraient revenus dans la bourse, et comme personne ne compte, il y en a exactement 300 ou 290 ou 289, j'aurais pu forcément m'en mettre un peu dans la poche. Et effectivement, bon, ce passage, on voit que ceux qui pensent trop à l'argent ne sont pas vraiment du bon côté, puisque bon, là... ceux qui rudoient la femme vont être eux-mêmes remis en place par le Christ, et puis on voit qu'à la fin, Judas, bah, on lui promet aussi un peu d'argent. Donc, ceux qui sont près de leur sou sont pas trois de moins. Et donc Jésus leur dit, ben voilà, laissez-la, pourquoi la tourmenter, il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi vous ne l'aurez pas toujours. Alors, cette phrase, il faut bien la comprendre, c'est, le Christ ne dit pas, voilà, c'est pas grave, les pauvres, bon, ben, il y en aura toujours, un de plus, un de moins, voilà, le fait qu'on aurait pu les aider, mais bon, il y en aura suffisamment, non, c'est pas ça que le Christ veut dire. Et d'ailleurs, là aussi, un commentateur dit que dans cette phrase du Christ, hein, des pauvres, vous en aurez toujours, on peut y voir un écho d'un passage du Deutéronome, donc un des premiers de la Bible, au chapitre 15, verset 11, qui dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, ouvre grande ta main à ton frère, à l'humilié, aux pauvres qui sont tiens. » Donc c'est intéressant, quand le Christ dit « Des pauvres, vous en aurez toujours », voilà, sans doute qu'il y a cet écho de « Des pauvres, il y en aura toujours dans le pays », mais ce n'est pas pour dire « Voilà, des pauvres, vous en aurez toujours », donc là encore, bon, si on les aide une fois, deux fois, dix fois, c'est négligeable. Non, au contraire, le Christ dit « Bien sûr qu'il faut les aider ». Vous vous souvenez du discours du grand roi dans Saint Matthieu, quand le Christ dit « Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait ». Donc le Christ ne relativise pas, bien entendu, l'aide donnée aux pauvres. Mais, effectivement, il souligne quelque chose qui est que, eh bien, bientôt, il va leur être enlevé. Et que ce geste, qu'on peut penser, voilà, on peut penser que c'est Marie qui refait le geste qu'elle avait déjà fait pour réitérer son amour envers le Seigneur, mais le Christ lui donne aussi une portée prophétique, puisqu'il dit finalement que ce geste, eh bien, il annonce sa mort prochaine. Elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Puisque ça ne vous aura pas échappé que les saintes femmes ne pourront jamais parfumer le corps du Christ, puisqu'elles arrivent avec des onguents au matin de Pâques, mais que le tombeau est vide et Jésus est déjà ressuscité. Et donc finalement, c'est d'une certaine manière une anticipation de ce qui ne pourra pas être fait. Alors effectivement, il y avait... Alors effectivement, c'est mentionné que Joseph d'Arimathie avait apporté des onguents, mais on peut penser que dans... la précipitation, parce qu'il fallait que tout soit terminé pour le début du sabbat, qu'en plus, on ne savait sans doute pas exactement quand commençait le sabbat ce jour-là, puisque les ténèbres étaient déjà tombées très tôt, normalement le sabbat commence par la première étoile, et donc il y avait une hâte qui fait que sans doute le travail n'avait pas forcément été fait. Et donc on peut voir finalement justement dans la perte du parfum, parce qu'au verset 4, hein, le français a traduit « à quoi bon gaspiller ce parfum ?» En fait, en grec, c'est « pourquoi la perte de ce parfum ?» Et donc, voilà, on peut voir peut-être dans le fait que ce parfum est perdu, une prophétie qui annonce que le Christ, eh bien, lui aussi, va perdre sa vie, puisqu'on cherche à le faire périr. Donc voilà, la perte du parfum annonce la perte de sa vie. Et l'onction donnée maintenant annonce l'onction qui finalement ne pourra pas avoir lieu. Et là aussi, un commentateur souligne, c'est intéressant, que cette onction elle est faite dans une maison. Et que chez Saint Marc, la maison c'est toujours le lieu de la vie et de la guérison. Et donc finalement, il y a. Voilà, c'est pas une onction faite dans un tombeau. C'est une onction qui certes annonce la mort prochaine de Jésus, mais elle est faite dans une maison, au cours d'un repas, donc avec cette dimension quand même festive. Et donc finalement, il y a un peu les deux dimensions du mystère pascal, le Christ va mourir, mais il va ressusciter. Enfin, la mort n'aura pas le dernier mot. Et puis enfin, il y a le verset 9, qui évidemment, eh bien, c'est ce que nous faisons ce soir, Partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. On est encore en train, bientôt 2000 ans après, de raconter cette onction de Béthanie. Alors vous allez me dire, mais tout ça ne nous explique pas forcément pourquoi Judas se décide à trahir. Alors, on ne pense pas qu'il trahisse quand même pour les 300 pièces d'argent qui lui seraient passées sous le nez, mais sans doute qu'il trahit plutôt avec cette nouvelle annonce de la mort du Christ. Parce que Judas, lui, veut un Messie triomphant, il veut un Messie roi d'Israël, auprès de qui il pourra se tenir, auprès de qui il pourra être ministre. Et puis là, encore une fois, vient le Christ annonce justement qu'il va mourir. Et on peut penser que c'est cette nouvelle annonce de son ensevelissement qui va convaincre Judas d'aller livrer le Christ, puisque Judas, finalement, ne veut pas être du côté de ceux qui vont mourir. Et donc, il préfère être du côté de ce qu'il pense être les vainqueurs, donc il pense du côté de ceux qui vont faire mourir le Christ, et donc c'est à ce moment-là qu'il va voir les grands prêtres pour le leur livrer. Que je reçois un coup de fil, mais c'est comme je n'ai plus de montre, je vais sortir mon téléphone pour voir quelle heure il est. Est-ce que vous avez des questions sur cette onction de Béthanie?
Moi j'aurais une question.
Allez-y, on change.
On ne sait pas comment elle a acheté ce parfum.
Non,
mais. C'est vraiment le zéro des sous. Enfin, c'est une année de travail.
Oui. Mais on.
Est-ce que ça ne serait pas. C'est bien Marie-Madeleine, l'argent qu'elle aurait gagné.
On n'est pas du tout sûr que Marie-Madeleine soit une prostituée, en fait. Non, c'est-à-dire, Marie-Madeleine, dans l'imaginaire, c'est devenu une prostituée parce qu'on parle d'une pécheresse publique. Mais une pécheresse publique, c'est pas forcément une prostituée. Ça peut être une femme très riche, et on pense justement que Marie-Madeleine était très riche, ça peut être une femme très riche qui couche allègrement avec des hommes, mais sans leur demander quoi que ce soit. Et donc, il y a ce glissement un peu de pécheresse publique à prostituée, mais qui n'est pas... qui n'est pas forcément directement attesté.
En tout cas, c'est un sacré acte qui est bien fait.
Oui, mais c'est justement, je dirais, il y a une folie de l'amour dans ce geste qui répond à la folie de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous, ça nous paraît déjà immense que Marie-Madeleine brise ce vase et offre un parfum de 300 pièces d'argent. Mais le Christ, il va donner sa vie. Donc, il y a une vie divine, il y a une vie qui a un prix infini. Donc, déjà, cet acte d'amour de Marie-Madeleine nous paraît fou, nous paraît disproportionné, mais en fait, il n'est qu'une goutte d'eau par rapport à la folie de l'amour de Dieu qui va se donner, qui va se donner totalement. Après, ça nous rappelle aussi quelque chose. Ça nous dirige vers aussi ce que disait le curé d'Ars. Il n'y a rien de trop beau pour Dieu. Le curé d'Ars qui lui-même se privait de tout, qui mangeait ses pommes de terre tout au long de la semaine, etc. Eh bien, quand il s'agissait d'acheter des ornements, d'acheter des calices, ne comptez pas la dépense, parce que pour Dieu, rien n'est trop beau, et c'est une manière d'exprimer petitement la beauté de Dieu de faire que dans l'entourage de Dieu, à l'autel, tout soit le plus beau possible, que ce soit un peu un reflet de la beauté de Dieu. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi ce que vit Marie, c'est-à-dire qu'elle a compris que dans le cœur du Christ, il y avait un trésor, et donc elle veut, finalement, mettre sur sa tête un petit trésor, parce qu'elle s'est dit, qu'il n'y a rien de trop beau pour le Christ, et que, finalement, le Christ étant la beauté même, tout ce qui l'entoure doit être beau, et que ce parfum doit être très beau et très précieux. Alors après, il faut toujours jouer sur les deux tableaux, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, le soin de la liturgie, le soin des pauvres, parce que c'est aussi dans le pauvre qu'on honore le Christ. Donc, évidemment, on honore Dieu à l'autel par des beaux ornements, des beaux calices et de belles liturgies, mais il faut aussi honorer le Christ dans le pauvre par le don qu'on lui fait.
Alors, ce que vous disiez concernant l'importance de la maison, dans les premières communautés chrétiennes aussi, les premiers chrétiens se réunissaient souvent chez des bâtisseurs, des femmes très riches.
Effectivement, en écho aussi au repas qu'on verra juste après, mais c'est vrai qu'il y a un lien aussi entre ce repas chez Simon le lépreux, et puis après le repas qui va suivre, qui est le repas de la dernière scène, ou de la première messe. Et effectivement, qui a eu lieu dans une maison privée, et effectivement, donc les premiers chrétiens, en souvenir du Cénacle, et puis aussi parce qu'ils étaient persécutés, effectivement, célébraient souvent ce qu'on appelait des maisons-églises, c'est-à-dire des maisons privées qui étaient transformées plus ou moins de façon confidentielle et de façon plus ou moins épisodique en église. Alors, on n'a pas signalé, mais c'est vrai que c'est étonnant aussi que Jésus mange chez un lépreux. Parce que par définition, normalement, le lépreux est celui dont on ne s'approche pas, et celui qui est impur pour ensuite aller au temple. Donc, finalement, le Christ était au temple, qui devrait être le lieu le plus saint, mais qui était le lieu, finalement, où il était le moins aimé. Et puis là, il arrive dans ce qui est l'exact contraire du temple, qui est le lieu, normalement, le moins saint, le moins pur, c'est la maison d'un lépreux. Et puis finalement, c'est là qu'il est le plus aimé. Alors, bon, soit le lépreux était vraiment lépreux, et donc là, les autres convives, la pauvre femme, un acte de foi, dans la puissance du Christ, en disant, bon, il a ressuscité Lazare, il peut bien nous préserver de la lèpre, soit on peut penser aussi que c'est un lépreux guéri par le Christ. Donc, il continue d'être appelé Simon le lépreux, même s'il a été guéri par le Seigneur. On enchaîne juste sur le paragraphe suivant. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? Il envoie deux de ses disciples en leur disant : Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas, faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Nous sommes quel jour maintenant ? Nous sommes le jeudi soir dans le calendrier le plus unanimement retenu. C'est une chercheuse qui s'appelle Annie Jaubert qui a une théorie sur les jours de la Semaine Sainte. Et puis pour elle, la Sainte Cène, donc la première messe aussi, aurait été célébrée le mardi soir. Position assez minoritaire, normalement il est couramment admis que nous sommes effectivement le jeudi soir, puisque nous sommes la veille de la mort du Seigneur, et que la mort du Seigneur intervient le vendredi, puisqu'elle-même a lieu la veille du sabbat. Donc le grand repère chronologique de ce qu'on appelle le Triduum Pascal, donc les trois grands jours saints, dans les évangiles, c'est le fait que Jésus donne sa vie la veille du sabbat. Donc, le samedi. Donc, il donne sa vie le vendredi. Et là, on est la veille, donc on est le jeudi saint au soir. Alors, c'est pas sans poser de difficultés, je sais que vous êtes encore un petit peu frais dans vos têtes juvéniles, parce que c'est pas tout à fait simple en fait. Parce que Saint Marc dit qu'on immole déjà l'agneau pascal ce jour-là, alors que chez Saint Jean, il dit justement le sabbat de cette année-là, donc de l'année où meurt le Seigneur. Ce sabbat était un grand jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'évangile de Saint Jean qu'on lit le vendredi saint. Donc ce sabbat était un grand jour, ça veut dire que la fête de la Pâque tombe le samedi. Que le sabbat samedi, c'est un grand jour. Pourquoi cette année-là c'est un grand jour? Parce qu'il coïncide avec la fête de la Pâque. Or, on immole les agneaux à partir de la veille, donc à partir du vendredi. Et c'est d'ailleurs assez frappant que le Christ, qui est l'agneau de Dieu par excellence, meurt sur la croix au moment même où au temple on commence à immoler les agneaux en vue de la fête de la Pâque qui aura lieu le lendemain. Alors du coup, on est un petit peu, interloqué par le fait que Saint Marc dise que les agneaux de Pâques, je dis de Pâques, je sais trop si on dit Pasco ou Pascal, sont immolés dès ce soir-là. Alors il y a une explication qui est donnée, plusieurs explications qui sont données à ça. Une première explication, c'est que le nombre d'agneaux étant tel qu'il aurait fallu commencer bien avant, et une autre explication complémentaire qui serait de dire qu'en fait il y avait plusieurs calendriers, et donc que les Galiléens n'avaient pas forcément le même calendrier, ou que ce qu'on appelait les Esséniens, qui était un groupe religieux particulier à l'intérieur du peuple d'Israël, n'avaient pas tout à fait le même calendrier, et qu'au fur et à mesure des années et des différents groupes religieux, eh bien, voilà, les dates de la Pâque avaient un peu fluctué. Et on en retrouve, c'est tout la même chose, mais on en retrouve un très lointain écho aujourd'hui avec le fait que les orthodoxes et les catholiques n'ont pas forcément la même date de Pâques. Donc, et que dans les premiers siècles, on s'est pas mal discuté entre les Irlandais et les Romains pour savoir, parce qu'on n'avait pas la même manière de compter la fête de Pâques. Donc, ce qui s'est passé dans l'Église, on peut imaginer que ça s'est passé aussi dans le peuple d'Israël, et qu'en fonction de la manière de décompter les jours, les lunes, etc., on soit arrivé à des dates de la fête de la Pâque qui n'étaient pas forcément identiques chez les Esséniens et chez les Pharisiens, ou chez les Galiléens et chez les Judéens. Et donc, voilà, ça n'a surpris personne que le Christ veuille célébrer déjà la Pâque ce soir-là, du jeudi soir, alors même que très majoritairement, les agneaux étaient immolés le vendredi. Et ça renvoie à une question encore plus profonde que l'on abordera la prochaine fois, qui est le Christ a-t-il célébré la Pâque le jeudi soir? Et la réponse est plutôt non. Le Christ célèbre un repas dans un contexte pascal dont il reprend un certain nombre d'usages, mais le Christ, cette année-là, ne célèbre pas la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il va accomplir la Pâque. Il va lui donner tout son sens en mourant sur la croix le lendemain et déjà le jeudi saint au soir en célébrant la messe. Donc, on ne peut pas avoir et l'annonce et la réalité, et l'image et le modèle. Donc là, le Christ, effectivement, c'est dans un contexte pascal, tout Jérusalem, des agneaux et des pains sans levain, etc. Donc tout le monde ne pense qu'à la Pâque. Donc c'est un contexte pascal dont le Christ va s'emparer pour lui donner tout son sens, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il est le véritable agneau, mais le Christ ne célèbre pas la Pâque, puisqu'il célèbre ce qui est la Pâque véritable, à savoir la messe. Donc, c'est important aussi de voir que, malgré les expressions qui sont employées, ce n'est pas la Pâque juive telle que le Christ a pu la célébrer les années précédentes. C'est effectivement un repas qui ressemble à la Pâque, qui commence peut-être comme la Pâque, mais qui va se terminer totalement différemment, puisqu'il va y avoir la nouveauté de la messe, la nouveauté de l'évangile, la nouvelle alliance. Donc, on n'est plus dans la Pâque de la première année. Et dernière petite remarque, donc vous aurez remarqué que le Christ eh bien, envoie des disciples pour préparer la Pâque et que c'est aussi une invitation pour nous à préparer la messe. C'est-à-dire que le Christ n'arrive pas comme ça dans une salle non préparée, improvisée pour commencer la messe. Enfin, la messe, ça se prépare. Donc ça se prépare dans une salle ornée, préparée et je crois que c'est Saint-Luc qui dit que c'est Pierre et Jean qui sont envoyés en avant. Donc Pierre qui représente la foi, Saint-Jean qui représente la charité. Donc c'est aussi une leçon et un enseignement pour nous. La messe ne s'improvise pas. Comme le Christ n'a pas improvisé la messe. Il l'a préparée. Et il l'a envoyé en avant, comme nous, nous devons aussi envoyer en avant de nos messes, et la foi et la charité. C'est-à-dire ranimer notre foi dans la présence réelle de Jésus, ranimer notre amour pour lui, et ça, c'est quelque chose qui doit nous animer à chaque fois que nous nous allons vers la messe. Comme le Christ qui a envoyé ses disciples en avant de lui pour préparer la messe. Le petit agneau, et puis quand le Christ aussi, parfois on voit ses disciples deux par deux dans tous les lieux où lui-même devait aller, donc cette idée que le Christ aussi, prépare finalement la route, il prépare les âmes avant d'arriver lui-même dans les âmes. Il envoie quand même ses apôtres aussi en mission. Et ça, il y a un très beau texte que c'est l'évangile de demain, d'ailleurs, de Saint-Luc. Et il y a un très beau commentaire, je crois que c'est Saint-Grégoire, qui dit justement que les prédicateurs sont toujours envoyés en avant du Verbe de Dieu, de la parole de Dieu, parce que on entend d'abord dans l'oreille avant que la parole vienne dans le cœur. Et donc finalement, c'est la voix qui frappe l'oreille, c'est les disciples de Jésus, c'est les prédicateurs, c'est les prêtres qui parlent avec une voix humaine, mais après, la parole vraiment qui elle reste dans le cœur, c'est Jésus lui-même. Donc il y a la voix qui frappe l'oreille avant qu'elle ne descende dans le cœur. Les apôtres, les disciples qui précèdent Jésus. Et dernière chose, donc pourquoi c'est facile de rencontrer en plein Jérusalem où il y a des centaines de milliers de personnes un homme portant une cruche d'eau qui viendra à votre rencontre, bien parce que c'est toujours les femmes qui faisaient ça. Voilà. Et donc dans toutes les rues de Jérusalem, il n'y avait sans doute qu'un seul Pékin qui portait une cruche d'eau, parce que d'habitude c'était toujours madame qui était chargée de porter la cruche. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un signe, parce qu'on pourrait dire. Si tout le monde portait une cruche d'eau, c'est mal barré. S'il fallait suivre tous ceux qui portent une cruche, on aurait mis du temps à trouver la salle. Donc là, apparemment, comme c'était une mission féminine que le service de l'eau, eh bien, ils n'ont pas eu trop de mal à identifier celui qui les mènerait à la maison. Alors, est-ce que ce jeune homme, c'est Saint-Marc lui-même? C'est possible. Voilà, nous arrêtons là parce qu'il est 21h19. Donc, ça, si vous avez des questions, c'est généralement qu'on dit qu'il est l'heure des questions. C'est tarif. Très bien, donc nous revoyons le 14 novembre et nous continuerons donc de parler de la messe et du jeudi saint et même de Gethsémani. En revanche, le 28 novembre. Le 28 novembre, il n'y aura pas d'école de prière, parce que nous serons à 2 jours de la récollection prêchée par le Père Cestlas Marie. Donc, votre cœur sera plein d'espace encore pour recueillir la prédication du Père Cestlas. Donc, je vais vous montrer à la chapelle.